Parlons d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour, l'ombre du Kremlin dans un procès pour meurtre. Ça se passe à Berlin, et pour la première fois, la comparution devant la justice d'un citoyen russe pour le meurtre d'un ancien combattant tchétchène en Allemagne pourrait permettre d'établir un lien direct entre l'assassinat et Poutine comme donneur d'ordre. Le reportage de Julien Méchossi.
War es ein Auftragskiller der russischen Regierung? Prozessauftakt im Tiergartenmord.
Le meurtre du Tiergarten, une expression rentrée dans le vocabulaire commun pour désigner l'assassinat de Selim Khan, Khangochvili, dans le plus grand parc de la capitale allemande. Sur le banc des accusés de la salle numéro 700 du tribunal pénal, surveillé par des policiers cagoulés et lourdement armés, Vadim Krasikov, 55 ans, est protégé par une vitre blindée. Des dispositions hors normes pour un procès qui se veut exemplaire, car l'enjeu est aussi lourdement politique. Jointe par téléphone peu avant l'ouverture du procès, Barbara Petersen est l'une des avocates de la partie civile.
Pour la famille de la victime, il est absolument nécessaire de savoir qui se cache derrière cet acte inimaginable, avec des organismes étatiques étrangers qui décident de tuer ce qu'ils considèrent comme un ennemi public. La victime a été exécutée en plein jour, en pleine rue, avec des passants tout autour. Une exécution commanditée. Et il est primordial, autant pour les proches de la victime que pour la République fédérale d'Allemagne, de savoir qui en sont les véritables responsables.
En Allemagne, cet assassinat revêt la même dimension que l'affaire Skripal, du nom de Sergueï Skripal, ancien agent de renseignement militaire russe, empoisonné en Angleterre aux côtés de sa fille Yulia, avec un agent neurotoxique Novichok. Et comme Sergueï Skripal, Selim Khan Khangochvili a été victime, selon le parquet allemand, d'un acte commandité par des organismes étatiques russes. Mike Baumgartner est à l'origine de nombreuses révélations sur cette affaire. Selon ce journaliste d'investigation au grand hebdomadaire Der Spiegel, il n'y a aucun doute, les responsables de la mort de l'opposant tchétchène se trouvent bien en Russie.
Si cet assassinat n'a eu aucune conséquence sur la sécurité du citoyen allemand moyen, le signal envoyé à tous les opposants, qu'ils soient tchétchènes, géorgiens ou russes, et qui ont fui en Europe pour ne plus être en danger, est dramatique. Le message est clair, vous n'êtes nulle part en sécurité. Peu importe où vous vous cachez, nous vous retrouverons. Et s'il le faut, nous sommes capables de vous assassiner en pleine rue, au cœur de la capitale allemande.
Parti de Moscou avec un passeport officiel, mais sous une fausse identité, puis passé par Paris et Varsovie avant d'arriver à Berlin, Vadim Krasikov a, selon les enquêteurs, forcément bénéficié de soutien, soit au plus haut sommet de l'État, soit au sein des services secrets de renseignement russes. Entre autres car celui qui présente un CV de tueur à gages savait que Selim Khan Khangochvili prenait chaque vendredi, à la même heure, le chemin vers la mosquée. L'assassin présumé savait également où étaient placées les caméras de surveillance qu'il a méticuleusement évitées, portait une perruque, sans parler de l'arme du crime qu'il a difficilement pu transporter seul jusqu'à Berlin.
Tous ces points indiquent que l'auteur présumé n'a en aucun cas pu agir seul, qu'il a forcément bénéficié de soutien et que de nombreuses personnes étaient au courant de cette exécution. Cela signifie donc qu'il existe un réseau et que les autorités allemandes n'ont pas su jusqu'à aujourd'hui mettre un terme aux activités de ce réseau. Et même s'il s'agissait d'un réseau mobile, avec des complices qui ne seraient restés que quelques mois à Berlin, nous ne savons toujours pas qui ils sont, et l'État allemand non plus.
À voir maintenant si l'accusation parviendra à mettre à jour ses liens avec le Kremlin. Le meurtre du Tiergarten a également eu de graves conséquences sur les relations germano-russes, avec l'expulsion de plusieurs diplomates. 25 journées d'audience sont prévues étalées jusqu'à la fin janvier 2021. Un délai bien trop court, selon le journaliste Mike Baumgartner, pour faire toute la lumière sur cette exécution. Mais du temps en plus, bienvenu pour le gouvernement d'Angela Merkel, car si les juges venaient à confirmer l'implication directe de la Russie, la chancelière n'aura alors plus le choix. Elle devra prendre des sanctions fortes contre la Russie de Vladimir Poutine.
Service secret russe, service secret tchétchène, vu de l'étranger, la différence ne saute pas aux yeux. La Tchétchénie qui a cessé de faire les gros titres de l'actualité internationale depuis la fin de la Seconde Guerre d'indépendance, entre 1999 et 2009, est désormais intégrée à la Fédération de Russie. Difficile donc d'imaginer que quoi que ce soit puisse s'y décider sans l'accord de Moscou, surtout pas des assassinats d'opposants en exil. Et pourtant, les explications de Jean Cassé.
En Russie, la Tchétchénie est un véritable état dans l'état. Son dirigeant, Ramzan Kadyrov, dispose d'une marge de manœuvre étonnante, au point parfois d'étendre son influence hors de son territoire pour commanditer les assassinats en Russie et même à l'étranger. Écoutez Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe.
Depuis une douzaine d'années, depuis que Kadyrov, fils, a la réalité du pouvoir en Tchétchénie, il y a un certain nombre d'incidents. Incidents d'abord en Russie. Kadyrov, fils, a réglé des comptes, a exécuté ou fait exécuter certaines personnes, à Moscou même, parfois. Et puis, on a vu que dans certaines capitales européennes, à Vienne, ailleurs, à Lille aussi, il y a eu un blogueur tchétchène d'opposition qui a été assassiné. Donc on voit une série d'exécutions, de tentatives d'assassinat de tchétchènes opposants à Kadyrov. Il est parfaitement concevable que les autorités de Grozny règlent leurs comptes sans en référer au Kremlin et sans demander l'autorisation.
Pourquoi cette autonomie ? Parce que le Kremlin, pour mettre fin aux velléités d'indépendance de la Tchétchénie, a en réalité conclu un pacte. La famille Kadyrov, placée au pouvoir, garantit la loyauté de la région et son maintien au sein de la Fédération de Russie. En échange de quoi, le centre, comme on surnomme parfois Moscou, s'accommode d'une quasi-indépendance de fait. Arnaud Dubien.
À Moscou, on comprend en réalité qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler totalement ce qui se passe en Tchétchénie. Donc ce qui a été choisi, c'est une forme de sous-traitance. Donc le clan Kadyrov a été coopté par Moscou à la fin des années 90, alors que la Tchétchénie était traversée par des courants islamistes wahhabites, pour restaurer l'ordre et réintégrer la Tchétchénie dans un ensemble fédéral, cette réintégration étant dans une large mesure factice. La réalité politique, la réalité sociale, sociétale en Tchétchénie a de moins en moins à voir avec ce qui se passe ailleurs dans la Fédération de Russie, et dans les faits, la Tchétchénie est de plus en plus autonome. Dans les faits, Kadyrov, c'est vraiment ce qu'il veut, tout en étant financé par le centre, c'est-à-dire par Moscou. L'un des volets de cette autonomie de Kadyrov, c'est une forme de politique étrangère. Alors parfois, elle est parfaitement en phase avec celle de Moscou. Moscou peut parfois utiliser Kadyrov, que ce soit en particulier au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite ou ailleurs.
De là à l'imaginer commanditer un assassinat à l'étranger, ce n'est pas à exclure. En l'occurrence, cependant, le tueur de cet opposant tchétchène à Berlin n'est pas tchétchène, il est russe, potentiellement un ancien membre des services de sécurité. Mais là aussi, il est possible que les Tchétchènes, à qui les Russes ont sous-traité la sécurité de leur région, aient à leur tour sous-traité cette exécution à un Russe.
Autre sujet d'inquiétude pour l'Europe, la Turquie et sa politique étrangère belliqueuse. Le sujet est au menu des discussions des dirigeants européens réunis à Bruxelles aujourd'hui. Et on en parle également avec vous, Virginie Le Petit. Bonjour.
Bonjour.
Le Courrier international consacre cette semaine sa une et tout un dossier à la Turquie. Ce pays qui se bat contre le reste du monde.
Oui, voilà plusieurs semaines que nous suivons les affrontements dans le Haut-Karabakh entre Arméniens et Azéris. Et avant ça, la montée des tensions en mer Égée, en Libye. Il nous a donc semblé intéressant de s'attarder sur le protagoniste commun à tous ces conflits, la Turquie. Ankara, qui affirmait en 2004 le principe du « zéro problème avec les voisins », est 16 ans plus tard en conflit avec à peu près tout le monde, et notamment sur différents terrains avec l'Europe.
Vous publiez d'ailleurs un article de la Frankfurter Allgemeine qui revient sur les provocations turques en mer Égée, Virginie.
Oui, des interventions pour lesquelles Emmanuel Macron a joué un jeu dangereux, estime Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la FATS. Il a fallu beaucoup d'efforts de médiation de la part d'Angela Merkel pour ramener Macron à une attitude plus propice au dialogue, rappelle-t-elle. Et pour qu'Erdogan et Macron se parlent de nouveau après l'épisode en Méditerranée orientale. Le fait de montrer ses dents militairement était une initiative non concertée. Sur le fond cependant, il y a consensus, dit la journaliste allemande, nous sommes face à une politique néo-ottomane qu'il faut freiner. Les journaux grecs vont même plus loin. Certes, il incombe aux Européens de mener une stratégie de médiation, mais quand cela s'avère nécessaire, il faut passer aux sanctions, préconise un politologue grec dans I. Katemerini.
Alors pourquoi ce changement de rapport entre l'Europe et la Turquie ?
Alors le politologue russe Fyodor Loukianov l'explique très bien. L'arrivée au pouvoir au début des années 2000 du Parti de la Justice et du Développement, l'AKP, créé par Recep Tayyip Erdogan, a été curieusement un puissant moteur pour l'européanisation. Mais à un moment donné, dit-il, Ankara est arrivée à la conclusion, non sans fondement, que l'UE n'était pas prête à accepter la Turquie dans ses rangs. Et si jusqu'en 2016, les relations avec la Turquie ont été plutôt cordiales, explique un autre politologue, le politologue grec de Ekaterini, Erdogan a beaucoup changé depuis le coup d'État raté contre lui en 2016.
Quelle forme prend ce changement ?
En soutenant aujourd'hui l'Azerbaïdjan dans le conflit qu'il oppose à l'Arménie, le président turc entend montrer qu'il est le patron dans la région. Ce n'est sûrement pas un hasard si Ankara se retrouve en première ligne de ce conflit à un moment où la Turquie est suractive dans son environnement régional, tentant de faire bouger les lignes partout en même temps, écrit notamment L'Orient le Jour. Le rêve d'Erdogan, c'est de ressusciter l'Empire ottoman. Et ce rêve risque toutefois de se heurter aux intérêts russes dans le Caucase et de buter sur la situation intérieure même de la Turquie. Militairement, le pays est peut-être plus fort que jamais, mais il ne s'agit là que d'un subterfuge pour surcompenser une société déchirée et désenchantée, expliquait récemment le quotidien israélien Haaretz.
Vous mettez également en avant cette semaine une controverse allemande sur le télétravail. Ce dispositif doit-il être inscrit dans la loi, s'interroge la classe politique.
En effet, contrairement à la chancelière Angela Merkel, le ministre du Travail allemand, Hubertus Heil, juge utile d'inscrire dans la loi le droit à 24 jours par an d'activité en distanciel. Deux journalistes du quotidien berlinois Die Deutsche Zeitung ont décidé de s'emparer du débat. Le premier rappelle surtout le temps précieux ainsi gagné, la possibilité d'aller habiter ailleurs qu'en centre-ville. Mais c'est surtout l'opinion de celui qui est contre qui paraît iconoclaste. Le télétravail conduira à un contrôle accru de la vie privée, une extension du travail, un renforcement de l'isolement, une atomisation grandissante, dit-il. Sans oublier une exclusion de certains processus et décisions qui ont lieu ou qui sont prises en entreprise. Et il conclut ainsi, on ne peut pas tout résoudre par Zoom.
Merci Virginie. Ces sujets et bien d'autres sont à découvrir dans le numéro de Courrier International de cette semaine, la Turquie contre le reste du monde. Son exposition commence aujourd'hui à Paris, gare de Lyon. Et contrairement à ce que son titre « Odyssée » laisse entendre, c'est plutôt un voyage immobile que propose la photographe Aglaé Bori. Car pendant des mois, voire des années, la jeune femme a immortalisé le temps d'attente de dizaines de demandeurs d'asile et son impact sur leur santé. En France, par exemple, le délai moyen pour l'obtention de l'asile politique est de 2 ans et demi. Un parcours long, semé d'embûches, où les candidats doivent passer devant 2 juridictions administratives, l'OFPRA en première instance, et ensuite la CNDA s'ils font appel. C'est ce voyage intérieur à la fois douloureux et rempli d'espoir que raconte Aglaé Bori au micro de Frédéric Lebel.
Il y a des personnes pour qui l'attente est physiquement très dure, psychiquement très dure. Beaucoup m'ont dit qu'ils se sentaient dans le flou.
Cette attente pour les demandeurs d'asile, elle va au mieux de quelques mois à 15 ans.
Pour un demandeur d'asile, je pense que la moyenne, c'est à peu près 2 ans et demi. Quand ça dépasse cette durée-là, c'est-à-dire que c'est les procédures d'asile qui ont été toutes refusées. Dans ce cas, c'est une autre procédure, hein, plus préfectorale, qui est engagée et qui est généralement précédée d'une longue période d'illégalité. Voilà. Donc ils savent que l'illégalité est souvent au bout du chemin et que, en tout cas, c'est un parcours très long. Donc effectivement, dans cette série, il y a une personne en fait qui est là depuis 15 ans. Ibrahim est là depuis 15 ans, il est mauritanien, il est sans papier depuis 15 ans, d'une façon un peu étrange puisque sa sœur est naturalisée française. Donc il y a des fois des incohérences au sein d'une même famille, dans une même situation, qui sont très injustes à vivre.
À l'opposé, j'ai envie de parler de ce jeune Afghan qui est le seul que vous avez filmé dans l'eau, dans la mer. Celle du Havre, un jeune Afghan qui, lui, a obtenu son statut de réfugié, on va dire relativement rapidement.
Au bout d'1 an. Il s'appelle Mohamed. Il venait d'apprendre la veille, en fait, de cette prise de vue que l'OFPRA lui accordait sa protection. Et donc c'était un énorme soulagement, un soulagement qui était perceptible même dans son corps, une sorte de relâchement très intense, un vertige presque aussi, parce que l'attente et l'inquiétude crée une tension dans le corps, ce qui fait que la réponse de l'OFPRA est venue relâcher toutes ces tensions. Et il a eu envie d'aller se baigner, donc je l'ai accompagné dans la mer pour ce bain qui est un peu le bain de la liberté, qui est un peu la respiration. Ça devient aussi la métaphore de la traversée pour les autres, parce que Mohamed, il n'a pas traversé la Méditerranée, il arrive d'Afghanistan. Mais d'autres ont traversé la Méditerranée et cette mer, c'est aussi le rappel de ce cimetière aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts en Méditerranée, mais c'est aussi l'appel, c'est aussi la liberté. il ferme les yeux parce qu'il se passe quelque chose de fort en lui, j'imagine. Après, nous n'avions pas la langue pour nous exprimer. On se parlait en silence. Parce que de temps en temps, il y avait quelqu'un qui était là qui faisait la traduction. Mais à ce moment-là, on est seuls tous les deux dans l'eau et on ne se parle pas.
Beaucoup sont entre quatre murs, forcément, dans leur chambre. Ouais. Et puis, ces murs... Ils disent parfois quelque chose, en fait, l'impossibilité d'aller plus loin, l'impossibilité de voir le futur.
Je vais parler d'Abdelrazik, parce qu'Abdelrazik, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup photographié pendant de nombreuses années, qui a traversé la Méditerranée, qui vient du Soudan, qui a eu un parcours de 4 années de demande d'asile, et qui a été régularisé il y a peu de temps, qui a obtenu en fait un avis positif de la CNDA, après de longues années d'attente. À chaque fois qu'on se voyait, il soupirait puis il me disait « Toutes les portes se ferment ». Il souffrait vraiment beaucoup de cette absence de perspective. Il souffrait énormément de l'exil parce qu'il y a ça. Le déracinement est très douloureux. Parce que le retour est présent tout le temps. C'est-à-dire qu'au départ, il est craint. Mais en même temps, il est espéré ce retour. Parce qu'ils sont attachés à leur pays, à leur famille qu'ils ont quittée. Et donc cette ambivalence d'émotions entre la crainte du retour et l'espoir secret du retour qui est vertigineuse. Et chez Abdelrazik, c'était très fort, ce vertige. Et je l'ai photographié comme ça, dans cette espèce de relâchement, les yeux fermés, parce que c'est quelque chose qu'il faisait souvent. Et bon, aujourd'hui, je suis heureuse pour lui parce que la CNDA lui a apporté une réponse positive, en fait, à son recours. Et désormais, il a commencé à pouvoir vivre et travailler en France. Donc les portes s'ouvrent un petit peu pour lui aujourd'hui.
Un travail exposé dans le cadre du festival Photomnal. Ce travail, figure immobile d'Aglaé Bory, est également exposé en ce moment au Quadrilatère à Beauvais, et ce jusqu'au 3 janvier.
Music.
C'est vendredi, vous nous parlez musique, Vincent Teval, bonjour.
Bonjour Léa Lisa, bonjour à tous.
Au menu, le groupe estonien Holy Motors.
Oui, quintet estonien formé à Tallinn en 2013, Holy Motors doit son nom au dernier film en date du réalisateur français Léos Carax. Un bon indice de la sensibilité cinématographique du groupe, confirmé par un premier album paru en 2018 où affleurait une fascination évidente pour l'Amérique des grands espaces et des westerns, mais aussi pour les débuts faussement candides du rock'n'roll, soit des chansons plutôt lentes, lancinantes et noires, interprétées par un groupe qui compte pas moins de 3 guitaristes, mais préfère jouer sur la finesse plutôt que sur la puissance. Nouvelle démonstration cet automne avec Horse, deuxième album de Holy Motors, dont la pochette met en scène la chanteuse habillée en cowgirl, juchée sur un cheval devant un rideau où s'imprime un paysage désertique.
On se quitte avec ce groupe estonien Holy Motors. Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Pour nous retrouver à toute heure et partout, rendez-vous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast ou sur votre plateforme d'écoute. À lundi.